Et c'est l'heure de retrouver Bruno pour l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. En janvier 24, le mouvement zapatiste fête ses 30 ans. En 2021, une délégation zapatiste envahit pacifiquement l'Europe pour rencontrer et rendre compte des résistances à l'œuvre à Madrid, Montreuil, Dijon, Vienne, Marseille et ailleurs. 1400 collectifs se sont fédérés pour permettre l'accueil de près de 200 délégués zapatistes. Terre rebelle est le livre qui rend compte de cette fraternité dans la résistance. Lisa Lugrin poursuit un voyage pour la vie, un premier opus paru en 2021 et qui déjà célébrait leur venue. L'autrice de livre en livre raconte et dessine des récits de lutte, d'action politique et se fait le relais des sans-voix. Lisa Lugrin sera avec nous vers 14h15 pour nous immerger dans ce mouvement révolutionnaire. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Antoine est en régie. Et pour la partie musicale, alors nous allons écouter... Je vais y arriver, mais c'est toujours des mots comme ça, où des fois on accroche successivement. Bébé Quintana, Chocolate Remix et L'Inconsolable, c'est une sélection musicale qui a été faite par Lisa Lugrin. Je voudrais vous présenter un premier livre, ce sont « Les sept vies à vivre », qui est un récit complet, écrit et dessiné par Charles Masson. Le récit. 1939, René a 13 ans, il vit isolé avec ses parents dans le massif des Bauges. Après la perte de 7 frères et sœurs en bas âge, il ressent le besoin de vivre pour eux. De son service militaire à son retour à la ferme familiale, du deuil de ses proches aux retrouvailles avec son amour de jeunesse, les sept vies que mène René mêlent le drame à la simplicité d'une existence dédiée aux autres. Alors, Charles Masson, c'est un auteur un peu particulier parce qu'il est non seulement auteur de bande dessinée, mais il est aussi ORL, otorhino-laryngologiste. C'est un médecin. On lui doit notamment Droit du sol sur justement la situation à Mayotte qu'il a décrite il y a déjà quelques années. Et c'était un livre dense, un roman graphique publié dans la collection Écriture de Casterman où il détaillait vraiment le fonctionnement de Mayotte, cette façon de faire du chiffre en ramenant en permanence les personnes dans d'autres îles comme les Comores. Et à chaque fois, il revenait, et ainsi on avait un chiffre de reconduction à la frontière absolument effarant. Là, avec cette vie à vivre, il compte donc l'histoire de René et d'une vie difficile. C'est cette vie à vivre, c'est sept moments de la vie de René qui sont autant d'une vie. Il y a l'enfance, bien sûr, avec à cette époque des années 30, une situation très difficile. Ils sont neuf dans sa fratrie, et puis sept sont décédés. Il sera l'aîné finalement d'une autre sœur qui pourra également poursuivre sa vie. Il y a donc une volonté de présenter les facettes d'une vie simple, celle de René, et c'est René qui va participer à la présentation des différentes étapes de sa vie. Il va donc avoir ses récitatifs qui sont ses commentaires à lui, et on va le voir à l'image sur une période tout à fait récente. Donc on sait effectivement comment les choses vont se terminer, vont aboutir, et donc c'est pas du tout l'effet de surprise qui est recherché, mais vraiment bien cette mise en perspective du récit de ces différentes vies de René à travers les commentaires qu'il va faire de sa vie actuelle. Il y a un narrateur qui raconte cette fois plus précisément dans le moment, dans l'instant qui est présenté dans chacun des sept chapitres de ce livre, dans chacune de ces sept vies. Il va y avoir le déroulement de la période présente avec donc cette trame narrative qui va courir tout le long du livre. Et on est vraiment dans une écriture, on sent qu'il y a chez Charles Masson, d'une part, cet attachement profond à l'humain, aux différentes vies qu'il peut mener, aux différentes facettes de sa vie, qu'il y a toujours une sorte de beauté en chacun de nous. Et c'est vraiment ce que montre ce livre, sans spectaculaire, sans effet de scénario, comme pourrait le faire une romance romantique et fixé un peu sur des grands stéréotypes. Pour René, ce n'est absolument pas le cas. Il y a vraiment une simplicité qui finit par être profondément touchante et on s'attache à poursuivre la lecture de sa vie tout au long de cette histoire. Charles Masson utilise pour mettre en couleur son dessin qui est assez énergique, assez nerveux. Il y a une façon de styliser son dessin, ses personnages qui vont leur apporter une certaine touche d'ironie. Et il va utiliser des trames pour mettre en couleur ces différentes images. Alors les trames, c'est ce procédé qu'on utilisait dans la presse pendant très longtemps, avant que la photo puisse être de bien meilleure qualité et imprimée avec toute la finesse nécessaire, et on ne les voit plus. On ne voit plus cette succession, cet agencement de petits points sur une teinte de gris va être des points noirs plus ou moins espacés, et puis sur des couleurs, et on va avoir des petits points de couleurs, parfois des trois couleurs primaires, et qui, selon leur densité, va donner différentes couleurs. C'était assez sommaire, mais utilisé comme ça dans la bande dessinée, il y a une très grande efficacité à ce procédé, et qui parfois est complété par des couleurs plus denses, plus franches, et donc on a un rythme dans la couleur qui fonctionne très bien. Il y a chez Charles Masson, qui commence à avoir une belle œuvre, un sens du récit, une efficacité dans son rapport aux personnages, dans leur mise en scène, dans la façon de représenter à la fois les lieux, les relations entre les uns et les autres. Là, il y a donc le personnage de Céline, son amour d'enfance, qui tient un journal et qui va apporter aussi un deuxième contrepoint. C'est vraiment d'une grande précision horlogère dans à la fois sa mise en scène et son écriture, qui fait que la rencontre avec René et son parcours de vie se fait avec toute l'intensité qu'on pourrait souhaiter. C'est un récit d'ampleur, il fait 224 pages, donc on est vraiment avec René tout au long de sa vie et on partage sa bonne humeur lorsqu'il est sur sa mobilette et qu'il nous raconte son histoire. C'est le fil rouge de ce livre. Les sept vies à vivre de Charles Masson sont publiées par les éditions Delcourt et les 224 pages sont au prix de 23,8 €. C'est dans la collection Mirage et le livre a été imprimé en Belgique. virgule. Alors, poursuivons avec, et vous allez voir que ça va avoir un lien, un sens, ces trois livres, avec le récit Terre rebelle de Lisa Lugrin, de Jérôme Bachet, de Métine Navarro. Et donc, je voudrais vous présenter le troisième tome du triptyque Les Zazous. Il s'intitule « Every time we say goodbye ». I'm sorry for my bad accent. De quoi il est question ? Alors, j'avais présenté le tome 2 de ce récit historique qui met en scène les Zazous. Alors, plus précisément, de quoi s'agit-il, le récit ? Paris. Durant l'occupation, les nazis instaurent en ville un climat de terreur, diffusent la haine et s'attaquent au moindre espace de liberté. Après avoir vécu une tragédie, les Zazous ont décidé de rejoindre la résistance et de participer à l'action armée contre les envahisseurs allemands. Francky est libéré de prison, mais trouve ses amis complètement changés. Ils ne lui font presque plus confiance. Pendant ce temps, les Allemands commencent à comprendre qu'ils pourraient perdre la guerre et dans leur désespoir deviennent plus violents que jamais. Mais dans cette lutte armée, même lorsqu'on œuvre pour la résistance, une autre menace plane, celle de devenir comme eux. Alors les Zazous, c'est ce groupe de jeunes qui ont refusé cette présence de l'occupant allemand, et qui ont choisi de vraiment garder un certain sens de la fête, mais aussi de la rébellion avec différentes actions. Opposé à eux, il y avait les JPF, la Jeunesse Populaire Française, qui étaient des groupes de fascistes et qui étaient au service du gouvernement de Vichy. Il y a donc un contexte historique que Salva Rubio, le dessinateur, va vraiment fouiller, préciser. Et dans ce troisième tome, il est question, par exemple, des républicains espagnols qui font partie de la Nueve et qui vont rentrer dans Paris les premiers, accompagnés de quelques soldats français. Mais ce ne sont pas les Américains qui ont libéré Paris. Il y a également la façon dont le régime de Vichy est pleinement responsable de la rafle des Juifs qui a notamment conduit au parquage, à l'enfermement au Veldiv d'un très grand nombre de Juifs, hommes, femmes, enfants. Il y a les Zazous et Jeunesse Populaire Française qui sont des groupes qui ont effectivement existé. Et là, ce troisième tome précise comment ils sont entrés dans la résistance. Il est fait également question des FTP Moy, dont le groupe Manoukian était un des groupes principaux, et il sera également question dans ce récit de l'assassinat d'un nazi célèbre, d'un dirigeant nazi célèbre. Il s'agit de Ritter. Alors, qu'apporte la bande dessinée à ce type de récit historique ? Il y a bien sûr chez Dan Idée, le dessinateur de ce triptyque, une élégance dans le trait de pinceau, dans la façon de présenter les différents personnages, leurs gestuels, leurs regards, les visages, de chercher des nuances dans les différentes attitudes, d'être capable également de donner un contexte assez saisissant à cette résistance parisienne et qui va se jouer aussi dans quelques autres endroits. Le passage dans le Veldiv est d'une grande efficacité. Il y a une dynamique dans la gestuelle des personnages qui sont vraiment représentés dans leur geste intense, et donc ça donne aux scènes d'action, de bagarre, une grande intensité. Et les moments entre ces parties de tension et ces parties d'affrontement sont aussi d'une grande efficacité dans ce rythme du récit. Il y a l'enjeu humain qui est vraiment traité par les deux auteurs pour que cette entrée en résistance ne devienne pas simplement une péripétie historique, le fait de quelques héros, mais soit vraiment ancrée dans ce contexte et que chaque décision, chaque rattachement soit vraiment de l'intensité que représente pour la personne qui le réalise ce choix. Il y a dans le découpage une façon d'utiliser le 4 bandes avec un format assez grand, un espace de la page très important, il y a très peu de marge. On est vraiment assez souvent avec des petites cases, des panoramiques assez étroits, qui fait qu'on a 5 bandes d'images. C'est un peu dense et ça aurait mérité un découpage un peu plus aéré, comme on peut le voir dans certaines pages où on a un 3 bandes qui définit la mise en scène du récit et qui lui apporte encore un peu plus d'intensité, ne serait-ce que par l'espace de la case. La mise en couleur est très efficace. Dan Hidé joue beaucoup sur les différents moments de lumière, ces alternances entre les moments sombres et une lumière qui va pouvoir être éclatante à différents moments. Il y a une couleur qui est narrative parce qu'elle n'est pas simplement la représentation d'une réalité, mais vraiment basée sur un traitement dramatique des différentes scènes. C'est d'une grande efficacité narrative avec ce scénario très dense sur les différentes personnes, les différents acteurs de ces groupes de Zazou, ceux également qui s'y sont opposés, donc des jeunesses populaires françaises. Et il y a une grande intensité sur cette évocation de la résistance au régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale à travers ces groupes de jeunes, ces Zazou qui refusaient de se soumettre. Très beau récit, donc, ce troisième tome du triptyque Les Zazou, Every Time We Say Goodbye, de Salva Rubio pour la partie scénario, de Dan Hidé pour le dessin et la mise en couleur. Les 48 pages de ce livre sont au prix de 14,50 €. On peut imaginer que dans quelques mois ou un ou deux ans, il y ait une intégrale qui regroupe ces trois livres et ce serait effectivement tout à fait appréciable de les découvrir d'un seul coup. Le livre a été imprimé en Belgique.
Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia,
justicia,
justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
En janvier 1994, l'armée zapatiste de Libération nationale se rebelle après des années d'organisation contre la répression, la discrimination, l'oubli. 30 ans après, Terre Rebelle, le voyage zapatiste en Europe, rencontre du périple d'une délégation de près de 200 délégués zapatistes et de leur rencontre avec l'Europe de grande et de moindre résistance. Lisa Lugrin, dessinatrice et co-autrice du livre, est impliquée dans les comités zapatistes avec Métis Navarro, autre co-autrice, et l'historien Jérôme Bachet, qui est le troisième co-auteur. Après 10 ans de documentation et de militantisme, Lisa Lugrin raconte l'histoire de ce mouvement révolutionnaire et en 28 chapitres, associe toujours la convergence des luttes européennes. Lisa Lugrin, avec une palette restreinte, une trichromie faite à base de vert, de rose et de noir, des allégories graphiques, retranscrit comment les zapatistes mêlent la lutte à l'imaginaire et la poésie. Avec un sens affiné de la narration en images, un trait dense et affirmé, Lisa Lugrin révèle les rêves, les espoirs, met en scène l'imagination et l'intelligence collective, le courage, la persévérance, l'énergie à l'œuvre pour qu'advienne un autre modèle politique et social. Par ses partis pris narratifs et graphiques, Terre Rebelle, le voyage zapatiste en Europe, est une véritable expérience de liberté. C'est une rupture avec les attendus, les stéréotypes dans lesquels la bande dessinée se limite trop souvent. De livre en livre, Lisa Lugrin raconte des histoires de lutte, d'action politique, d'altérité féconde. Les zapatistes ont rebaptisé l'Europe « Slumilmkajsemkop », la terre rebelle, la terre qui ne se résigne pas. Le 1er janvier 1994, les zapatistes cachent leur visage pour qu'on les voie enfin. Nous sommes avec Lisa Lugrin pour rencontrer et voir cette fraternité de résistance. Bonjour Lisa Lugrin.
Bonjour.
Alors, Il y a eu un premier livre qui avait été diffusé, qui s'appelait « Le voyage pour la vie », dont on retrouve cette partie dans Terre rebelle, qui avait été diffusé au moment, en 2021, au moment de leur passage en Europe. Alors, comment c'est fait le choix d'un livre et comment se fait l'accompagnement d'un tel événement avec une narration en images?
Oui, on a eu l'idée. En fait, on était assez nombreux quand les zapatistes ont annoncé qu'ils allaient venir en Europe à environ 200 zapatistes pour 3 mois pour découvrir tous les lieux de lutte, enfin un maximum de lieux de lutte en Europe et créer des liens entre eux. Et donc, on a été très nombreux à essayer d'organiser pendant des mois avant qu'ils arrivent tous les côtés un peu administratifs, logement, etc. Et avec le groupe, c'était la Comcom, la commission communication, moi, ça faisait très longtemps que je voulais faire une BD sur les zapatistes, mais je voyais pas trop par quel bout le raconter. Et en fait, au sein de cette commission communication, on a eu l'idée, au fur et à mesure du voyage, en fait, de raconter semaine après semaine des petits épisodes pour raconter ça en direct, en fait. Donc c'est comme ça que les tout premiers épisodes sont nés, qui racontent le voyage. Donc au début, c'était les zapatistes qui sont venus en Europe. Ils sont venus en... Et ils avaient prévu, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est donc il y avait 4 femmes, 2 hommes et 1 personne transgenre. Et pour eux, c'était important que symboliquement, la personne transgenre soit la première personne zapatiste à mettre le pied sur le sol européen. Donc voilà, donc ça c'est le début de l'histoire.
Alors, une fois que vous avez choisi le livre, comment ça se passe? Alors, vous avez participé au comité zapatiste. Mmh. Il y a 2 autres co-auteurs, Jérôme Bachet et Métis Navarro. Je ne sais pas si je prononce leur nom. Comment ça s'écrit, un tel livre?
C'est assez particulier. C'est la seule fois où j'ai vraiment travaillé comme ça. C'était au fur et à mesure. Donc, c'était un rythme un peu fou parce que je faisais 5 pages par semaine. Et puis, en plus, j'avais quand même un peu de travail à côté. Et on a écrit les épisodes, c'est ça, au fur et à mesure. Donc, c'est beaucoup avec Jérôme Bachet au tout début. Et puis, Métis Navarro était là aussi dès les débuts, mais elle a pris plus de temps pour écrire après. Et donc on écrivait comme ça, à chaque fois qu'on avait des nouvelles informations, on travaillait sur l'épisode suivant. Et sans l'idée forcée, enfin j'avais évidemment l'idée d'en faire un livre un jour, mais en tout cas là c'était le but, c'était de le publier. Donc le tout premier épisode a été publié dans Libération, chaque épisode a été publié dans une revue différente ou un média différent. Et donc avec des médias plus grand public et sinon aussi pas mal de médias plus amis et plus à gauche. Et l'idée c'était de faire parler de ce voyage et de faire connaître un peu le mouvement zapatiste et ce qui allait se passer, parce que c'était une super belle chose. C'était en plein Covid, en plein confinement. Enfin, c'était des moments où en fait vraiment... on était très déprimés en fait, et ils ont annoncé ça, donc c'était une venue complètement folle à ce moment-là, et ils devaient tous se faire vacciner, ils n'avaient pas les mêmes vaccins au Mexique qu'en France, etc. Et c'était très porteur d'espoir en fait, parce que donc à la fois de savoir que y a un mouvement qui existe au Mexique depuis 30 ans et qui a inventé plein de choses super intéressantes, qui fonctionnent, qui arrivent à tenir, et le fait aussi qu'ils viennent rencontrer des lieux de lutte, donc des plans d'alternatives pareillement intéressantes. On avait envie que ça se sache et de parler un peu de ces bonnes nouvelles, quoi.
Alors, avant d'approfondir un peu plus ces rencontres entre les différents lieux de lutte en Europe avec les zapatistes, qu'est-ce que ça veut dire faire partie d'un comité zapatiste? Comment avez-vous reçu, Lisa Lugrin, l'annonce de leur venue?
Alors, c'était assez simple en fait, et c'était assez chouette comme ça s'est organisé. C'est vraiment on avait des groupes, donc quand ils ont annoncé qu'ils allaient venir, c'était donc, oui, 200 personnes à accueillir, c'est pas rien. Et tout de suite se sont mis en place, en fait, depuis les réseaux qui connaissent déjà bien les apatistes, toute une organisation. Moi, je me suis greffée sur une organisation qui avait déjà un peu commencé avant que j'arrive. Et l'idée, donc, il y avait à la fois des groupes locaux, donc par ville, des groupes régionaux par région, et après des groupes interrégionaux, donc qui centralisaient tous les groupes d'un pays. Et c'était assez chouette de voir tout. Enfin, ça fonctionnait assez bien. En fait, on se rencontrait quasiment une fois par semaine, en fait. Et voilà, pour absolument essayer de tout organiser au mieux et de conjuguer un peu les forces. Et ce qui était très chouette dans ces groupes aussi, c'est que comme les apatistes, ils ont un côté à la fois politique, mais aussi très écolo, très sur le climat, sur aussi en avance par rapport aux droits des femmes, aux droits des personnes trans, comme je disais. Et il y a eu des tas de groupes extrêmement différents les uns des autres et qui se côtoient pas forcément dans leur lutte au quotidien, qui se sont rencontrés quoi pour organiser ça. Et c'était très très chouette. Il y avait des groupes féministes, des groupes de soutien aux migrants, etc.
Lisa Lugrin, comment c'est fait et c'est finalisé ? L'écriture même de ces 28 épisodes, parce qu'on sent qu'il y a une précision sur chaque mot de revendication, chaque mot des engagements, aussi bien du côté zapatiste que du côté des différents groupes de lutte rencontrés. Comment ça s'est passé, cette écriture ?
Alors, déjà, les zapatistes écrivent énormément et ils écrivent extrêmement bien. Donc on a repris pas mal de leurs communiqués. Eux, ils publient, on peut les trouver, les textes, ils sont tous traduits en français et dans de multiples langues. C'est sur Enlace Zapatista, c'est un site internet. Et donc on a repris beaucoup de leurs textes qui sont magnifiques en fait, qui sont superbes, qui sont justement, à la fois il y a ce côté politique, il y a des tas de choses, de combats en fait sur lesquels sont les apatistes, mais il y a aussi pour la poésie, la beauté, pour l'art, pour plein de choses en fait. Et ils sont extrêmement forts et ça nous a beaucoup porté pour commencer la bande dessinée, ces textes-là. Et ensuite, il y a d'autres textes. Moi, je ne me serais pas du tout sentie de faire cette bande dessinée seule. Et Jérôme Bachet notamment, donc, qui vit au Chiapas depuis une trentaine d'années, et puis d'autres personnes aussi, Rocío Martinez, Nico Tiburcio et Julia Arnaud et Métine Navarro, voilà. Donc c'est plein de gens qui connaissent très bien et qui ont écrit des épisodes sur les domaines qu'ils connaissent bien. Et en effet, la BD est assez précise.
Lisa Lugrin, je vous propose qu'on écoute votre deuxième choix musical et on se retrouve juste après pour parler dessin, mise en couleur et Terre Rebelle. À tout de suite.
Hey, todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca, él me ofrece otro llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar, socio, para que la sigas. Ya te he pedido por las buenas, papi, que no me persigas. Te estás ganando un patadón en la barriga. Boom, suena el reggaetón, yo tomando ron. El tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara, boom, boom. Le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, boom, boom. Mira nada más ese muchacho, que pinta de facho. Gorra y mostacho, espérate un cacho. Estás borrachizo, tremendo mamarracho. Te haces el macho, ay pobre guacho. Sabes que soy una feminista, pero no quieres que me resista. Sabes muy bien que sos un forro sexista. Y estás molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no. No entendiste que no, 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 no. Basta, cabrón. Boom, boom, suena el reggaetón. Yo tomando ron. El tipo se me acerca y se pone cabrón. Le
con una zorra, una loca.
Seguir rumiando y voy a partirte la boca.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Lusa Lugrin en direct à l'occasion de la sortie de son livre dont elle est co-autrice et dessinatrice, Terre rebelle, le voyage des zapatistes en Europe. Lusa Lugrin, il y a dans l'écriture des zapatistes, des comités zapatistes, un lien quasi permanent avec la poésie, avec l'imaginaire. Comment on choisit de représenter une telle écriture?
Alors c'est hyper agréable de travailler à partir de ces textes parce que c'est des textes en effet très beaux et très imagés, très concrets aussi. Et pas du tout de la politique abstraite ou quoi. C'est toujours un peu, il y a des histoires. C'est vraiment hyper agréable à travailler. Donc après, au niveau du choix de dessin, j'ai cherché déjà une technique qui soit rapide parce que donc on avait un rythme un peu effréné au début. Et que des fois, finalement, quand on va plus vite, c'est pas forcément moins bien. En fait, il y a aussi une énergie et quelque chose qui est aussi des fois beaucoup plus dynamique. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait le choix des premiers dessins.
Alors, il y a des images qui sont des allégories, comme par exemple la représentation de la montagne qui vient, qui symbolise le Chiapas et qui vient en Europe. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour la mettre en vie, cette montagne?
Donc oui, ça c'est le texte, c'est un des textes qui a été écrit par eux et qui est superbe. Et c'est de se faire plaisir en fait avec le dessin à partir un peu dans ces images-là. Oui.
Alors, pour la couleur, pour la mise en couleur, vous avez opté pour une palette restreinte. Là aussi, comment s'est fait votre choix?
Alors, c'est des couleurs, il y a quelque chose, enfin, je trouve un peu poétique et un peu quand même assez gai aussi. C'est donc un rose et un vert qui peuvent se mélanger. Et quand ils se mélangent, ça fait du violet. C'était un peu une surprise, en fait, quand j'ai commencé à les faire. Je me suis dit, mais c'est joli. Et je me disais que par rapport, il y a des fois des choses assez dures qu'on raconte aussi dans cette bande dessinée, en fait, la situation au Chiapas. Même si ce que construisent les zapatistes est quelque chose de très beau, ils sont confrontés en fait à une violence énorme de la part de l'État, de leur région et de groupuscules, etc. J'avais envie d'avoir quand même une palette de couleurs assez gaie et assez optimiste.
Alors, sur l'ensemble, est-ce que vous avez eu des relectures, et notamment sur l'évocation des différents groupes qui sont rencontrés par les délégués zapatistes. Et on en voit, par exemple, à Vienne, à Marseille, à Dijon, il y a des moments très forts. Est-ce qu'il y a eu une collaboration avec ces différents groupes,
Lusa Lugrin? Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait relire à tous les groupes pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc la plupart de ces histoires-là, c'est Métis Navarro qui les a écrites, ou alors moi, ou alors des personnes qui ont vécu ces rencontres. Et ensuite, on les a fait relire, en effet, aux groupes concernés pour être sûr que ça leur convienne. On n'a pas eu spécialement de... Enfin, tout leur convenait, quoi. Ils étaient plutôt contents... qu'on parle de leur existence, de leurs actions, etc. On a eu des retours chaleureux, quoi.
Nous sommes en 2024. Qu'est-ce qui a changé avec la venue de ces délégués zapatistes sur les terrains des différentes luttes européennes, Lusa Lugrin?
Alors, j'espère qu'il y a un lien qui s'est créé extrêmement fort, en fait, à ce moment-là. et qui s'est distendu quand ils sont repartis. Mais je pense que c'est des liens qui peuvent se réactiver en fait assez facilement. Le moment où ils sont venus aussi, c'était le moment où venaient de se créer les soulèvements de la Terre. Et c'est un peu ce genre de choses aussi que font les soulèvements en fait en créant du lien entre différentes luttes qui sont dispersées et qui peuvent s'unir pour être plus fortes. Et voilà, donc je pense que, enfin, il y a vraiment des rencontres qui se sont faites et qui pourront et des liens qui pourront être réactivés un jour, j'espère.
Lisa Lugrin, vous avez évoqué tout à l'heure la situation actuelle au Chiapas et donc cette présence et cette instrumentalisation des narcotrafiquants pour perturber et même chercher à anéantir les groupes zapatistes qui sont présents au Chiapas et qui... qu'est-ce que vous avez comme nouvelle de leur situation aujourd'hui ?
Là, en ce moment, c'est très préoccupant et il y a énormément de violence, de déplacement de population. Et en effet, là, on passe un peu notre temps à signer des pétitions et je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire de plus, mais en effet, c'est une situation d'extrême violence à laquelle ils sont confrontés. Ouais. Et en effet, à cause de la montée notamment du narcotrafic, l'État du Chiapas et le gouvernement en fait font tout depuis très très longtemps pour les mettre en difficulté, les faire disparaître. Donc ouais, ils ne sont absolument pas protégés de ça.
Lisa Lugrin, que va changer le livre Terre rebelle, le voyage zapatiste en Europe ? Qu'est-ce que ça peut ouvrir comme horizon ?
Mais moi, j'aimerais que ça donne de l'espoir. En fait, moi, ça m'a procuré ça. C'était donc un moment vraiment difficile. Le contexte était assez terrible. Et ça m'a donné énormément d'espoir de découvrir toutes ces luttes, en fait, à la fois de mieux comprendre les zapatistes, parce qu'en fait, c'est souvent des méthodes extrêmement simples, en fait, sur lesquelles ils s'appuient et où on se rend compte qu'avec pas grand chose en fait on pourrait vivre dans un monde bien meilleur et que la démocratie c'est pas si compliqué qu'en fait enfin voilà il y a des tas de choses qui peuvent s'inventer assez facilement et aussi de découvrir toutes ces luttes et des luttes qui sont donc à la fois près de chez nous hyper inventives toutes très différentes les unes des autres et aussi en grande partie victorieuses parce qu'en fait c'est vrai qu'on a toujours l'impression enfin on nous parle plutôt des difficultés etc et je pense que les grands médias n'ont pas toujours envie de mettre en lumière tout ce qui fonctionne parce que ça pourrait aussi nous donner pas mal d'idées en fait finalement et pas mal d'envie et ça fait du bien de savoir que ça existe et d'essayer d'avoir un peu d'espoir et de se mettre peut-être en mouvement aussi.
Et pour vous, Lisa Lugrin, pour votre écriture, quel horizon ouvre ce livre, parce que vous avez créé les éditions NA avec Clément Xavier, vous avez scénarisé aussi, par exemple, Washington. Que représente cette étape ? Vous avez évoqué le fait de dessiner avec l'actualité, donc cette étape de Terre rebelle.
Ouais, je dirais que c'est la bande dessinée qui me ressemble le plus, en fait. C'est une bande dessinée très particulière pour moi parce que d'habitude, en effet, je dessine à partir des scénarios de Clément Xavier et que j'aime beaucoup. Mais là, c'est vrai que j'ai pris beaucoup plus de part à l'écriture, au choix du sujet, etc. Et aussi, je me suis beaucoup surprise dans le dessin parce que d'habitude, le scénario, et Clément, je trouve qu'il scénarise très bien. Et il y a beaucoup d'action, il se passe plein de choses, etc. Et en fait, c'est très dynamique. Et là, on avait des textes forcément un peu plus explicatifs en fait sur les mouvements, etc. Et ça m'a obligée à être très créative dans la mise en page, dans la façon de l'illustrer, etc. Ce que je faisais pas du tout d'habitude. Et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à partir sur un chemin très différent de celui dont j'avais l'habitude. Et voilà, donc je ne sais pas ce qui en ressortira pour les prochaines bandes dessinées, mais j'essaierai de garder un peu de cette liberté que j'ai prise dans cette bande dessinée-là.
Merci beaucoup, Lisa Lugrin. Je vais rappeler les références de votre livre. Donc, Terre rebelle, le voyage zapatiste en Europe, c'est publié par les éditions Futuropolis. Les 208 pages de ce livre sont au prix de 24 euros. Il est imprimé en France et il y avait aussi donc deux co-auteurs, Jérôme Bachet et Métis Navarro. Très bonne continuation, Lisa Lugrin. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme.
This is all wrong.
Ils me traitent d'éco-terroriste. En gros, disent que je suis trop rigoriste. Quand je dis ils, je parle de tous ces gros égoïstes. Ce n'est pas que la liste est longue, c'est qu'il faudrait trop de listes. Y'a le cas de ceux qui prennent acte mais n'avisent pas. Y'a le cas de ceux qui captent ne réagissent pas. Y'a celui de ceux qui j'accumulent mais n'agissent pas. Puis le tas de ceux qui me virent, j'irai que ça crise pas. Aspire à ce que la crise passe, puis je passe, qui se passe. Puis me parle, développement durable, on t'en disgrâce. Les black blocs qui cassent attributs et brisent glace. Escompte qu'un état capitaliste les satisfasse. Hélas, ce n'est pas ce qui se passe, car il se passe. Rien, à part le capital qui mène à bien ses projets. Calme-toi Jean Moulin, Pétain saura bien réfléchir par lui-même. La violence ne mène à rien. Aurait-il tenu ce type de discours? Qui se court leur conscience quand leur courage est pris de court? À l'heure d'agir, tourne dos ceux qui se désistent. Pour pourrir ceux qui pour le coup agissent en disant qui se court. Capitalisme court, toujours ça tombe vite court. Pour ceux qui militent pour le changement mais sans qui se court. À veiller le courage de te combattre sans sale prix serait si lourd. Il y a trop d'écart entre les actes et les discours. Mais je suis éco-terroriste, un djihadiste vert, je suis trop rigoriste. Déméter, mais mon blaze en haut de ses top listes. Et d'office, je crie que c'est des gros fils de lâche. Le courage suit ses propres pistes. Je rêve d'oxyre tout ce tas de gros riches et sophistes. Et je me prive jamais des mots qui ce serait trop triste. Gaïa Akbar, des eaux pas des eaux Christ. Les discours toujours, mais jamais l'action. C'est pas le bon moment pour mettre fin aux exactions. Ils hésitent tous ces lâches comme nous les appelons. Pour nier la corrélation, il faudrait de l'aplomb. On voit le résultat d'opération. Il faudrait que ma colère tolère la modération. Et que j'ai moi le don de me fâcher, mais jamais à fond. Dénoncer ce monde insensé, mais le changer là non. Ce serait trop demandé. Pour se donner bonne conscience, on veut tout sauf changer. Plutôt mettre la tête dans sa baise clobandée. Et se boucher les oreilles quand mille autres crient au danger. Se contenter de dire ce qu'il faut faire, mais sans le faire. Soit un grand écart, c'est parce qu'on préfère de ce qu'on perçoit. Soit on s'affaire, soit on en a rien à faire. Soit on préfère dire qu'on fait ce qu'on dit et vice versa. Moi je critique le taf, je suis au RSA. Je dénonce le spécisme, je suis vegan et j'aime ça. On m'imagine triste, hélas, mais même pas. Et je déteste le pays, mais je l'emmerde et reste là. Et je ne les aime pas, ceux qui me font la leçon. Eux, ils sont mal tombés, je baisse donc pas le ton. Eux, ils n'ont pas le temps. Moi, je défends l'action. Je mords la main de mon maître mort d'un hameçon. Moi je suis éco-terroriste, un djihadiste vert, je suis trop rigoriste. Déméter, mais mon blaze en haut de ses top listes. Et d'office, je crie que c'est des gros fils de lâche. Le courage suit ses propres pistes. Je rêve d'oxyre tout ce tas de gros riches et sophistes. Et je me prive jamais des mots qui ce serait trop triste. Gaïa Akbar, des eaux pas des eaux Christ. Ils me traitent de djihadiste vert, endoctriné par Sandrine et sa discipline de fer. Ils balisent et disent que mon radicalisme perd. Ça me fascine, attentisme et bêtises vont-ils de pair? Facile de gagner pile, je perds. S'il s'avère que je fais face à leur envie de me taire. Ils me prennent dès que je parle une rhétorique de guerre. Entraîné par les maudits, par la maudite Thunberg. Greta fut être méchante, je vois que c'est moléante. Ils auraient tant aimé qu'elle se montrât plus tolérante. Ils préfèrent de fait ceux qui promettent gros et mentent. Greenwashing fait qu'on s'obstine sur la mauvaise pente. Choqué, je tente de renverser la vapeur. Et quoi anxieux qu'on me présente celui qui n'a pas peur d'une société qui plutôt que s'inquiéter de la chute de la biodiversité a peur de l'éco-anxiété n'a rappeur. J'sais bien par cœur leurs arguments et leurs argusies. La minutie avec laquelle c'est au carpal bussi. Hallucinant une issue mais il n'y aura pas de sursis. De planète on en a qu'une et le climat se durcit. Le ciel s'obscurcit et de ma poche paierai le prix de leurs idées aussi. Pourquoi j'irai coopérer? On me reproche les verres et les mots.
Je vais terminer cette émission avec Maouda. Autopsie d'un crime d'État qui est un documentaire, un témoignage documentaire de Manu Scordia. Autopsie d'un crime d'État, c'est donc un ouvrage dense qui va s'occuper d'un événement qui a eu lieu le 17 mai 2018 sur une autoroute belge. Une camionnette transportait des migrants, elle est prise en charge par les policiers et durant la courte poursuite, Maouda, une petite fille de 2 ans, meurt d'une balle en pleine tête. Il y a donc un récit, un procès qui va avoir lieu et le livre raconte dans le détail toutes les versions, tout ce qui s'est passé, comment l'État, les gouverneurs, les différents ministères concernés ont traité l'affaire et comment la presse a également participé à cette négation d'un tir, notamment de la part d'un policier, ce qui va être confirmé par différents points, mais à chaque fois, les uns affirment, des policiers exprime cette version des faits, puis se rétracte. Les reconstitutions n'apportent pas vraiment les informations nécessaires pour que le procès en réparation puisse véritablement avoir lieu. Manus Cordia va donc prendre à bras-le-corps cette affaire et va rencontrer différentes personnes, va pouvoir avoir les informations qui sont disponibles à travers différents enregistrements, différentes versions qui ont été exprimées, dont des témoignages existent encore, et ainsi montrer qu'il y a une volonté affirmée de la part de l'État belge de ne pas considérer qu'il y a eu une faute policière. Celui qui a tiré fut libéré très rapidement. Son arme de service lui fut rendue dès qu'il a été attesté que c'était bien cette arme qui avait tué la petite fille. Et donc, il y a des éléments à charge que Manus Cordia va méticuleusement présenter jusqu'à le récit du procès qui va tenir toute la dernière partie du livre. Il a rencontré les parents de Mauda, qui a un frère un peu plus grand, qui ont été, dès le soir, emprisonnés sous le prétexte qu'ils étaient migrants. La mère de Mauda n'a même pas pu accompagner sa fille à l'hôpital. Il y a énormément de points qui sont profondément choquants. Dans le procès, il y avait le policier, le passeur et puis le chauffeur de la camionnette. Ce qui est tout à fait poignant, c'est d'une part l'exigence du récit de Manus Cordia qui avance de façon précise, sans exagération, et qui va aussi rendre compte des différentes versions de cette affaire pour qu'on soit vraiment dans le déroulé, dans l'évolution de la situation. Les différents témoignages dont il rencontre, et notamment cette rencontre avec les parents, est bien sûr essentielle pour la compréhension de ce récit. Il y a un dessin de la part de Manus Cordia qui colle parfaitement avec ce type d'histoire, qui est une façon aussi de ne pas être dans une retranscription d'une actualité de façon journalistique, mais vraiment dans cette représentation après coup d'un événement qui a été très important au niveau de la presse belge, au niveau de l'État belge. Des comités de soutien ont vraiment aidé et pris fait et cause pour à la fois les parents de Mauda, mais aussi pour d'autres migrants et situations très problématiques en Belgique. Son dessin est donc un trait qui a quelques hésitations, mais qui joue parfaitement son rôle de mettre en scène, de cadrer avec efficacité, de représenter les différents personnages avec leur attitude. Les expressions sont simples, mais parfaitement expressives. Et on a donc vraiment ce traitement à hauteur d'humain, et c'est ce qui rend aussi le récit de Mauda très précis, c'est que à travers l'exemple de Maouda, il y a bien sûr tout le traitement des migrants en Europe, et notamment avec le principe de Dublin 2 qui permet de reconduire les migrants sur la terre qu'ils ont sur laquelle ils ont marché en premier en Europe, et ainsi éviter toute responsabilité. Il y a donc vraiment un dessin qui se met très vite à bien fonctionner, et le lecteur rentre intensément dans ce récit où on va avoir une connaissance des faits très progressive et qui fonctionne parfaitement. La représentation aussi des réseaux sociaux, la façon dont des personnes accusent, profitent de l'événement pour distiller haine et fanatisme avec des propos que je refuse de relayer. Il y a donc ce souci d'exactitude, ce souci d'une objectivité, et la présentation du procès en est aussi une preuve, et un travail aussi sur une mise en couleur avec une palette extrêmement restreinte. Nous avons une bichromie avec une deuxième couleur qui va varier selon les moments, selon les événements, selon les évocations effectivement de Maouda, qui se fera avec une couleur différente de ce marron qui accompagne le noir tout au long du récit. C'est un récit d'une grande efficacité qui montre aussi l'intérêt de cette collection témoignages documentaires de l'éditeur, les éditions La Boîte à Bulles, et qui montre aussi cette façon dont la bande dessinée peut s'emparer de grands faits, pas à la manière journalistique du traitement de l'actualité, ça c'est un autre chantier, mais vraiment sur la façon documentée de rappeler les faits et de pouvoir en rendre compte de façon intense dans toute la violence qu'ils peuvent représenter. D'où ce titre, Autopsie d'un crime d'État. Maouda de Manus Cordia est donc publié par les éditions Boîte à Bulles. Le titre complet, c'est vraiment Maouda, autopsie d'un crime d'État. C'est un livre de 192 pages. Son prix est de 22 euros. Je voudrais... Et il n'est pas imprimé en France, donc je ne vous dis pas où il est imprimé. Merci Antoine pour cette technique. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à tous sur l'écoute de Radio Escapade. Écriture dessinée.
Merci Bruno pour cette émission encore passionnante. On peut la réécouter, donc la rediffusion, ça sera samedi matin à 11h. Pour les leftards et la grasse mat, c'est parfait aussi. Pour l'heure, on va repartir en musique et normalement, on aura Steph Tej qui nous chantera Les Chats juste après ce petit jingle bucolique.